Nous sommes dans ce texte aux antipodes de Noël, puisqu'il s'agit pour Jésus de faire le bilan de son séjour ici-bas au moment de partir. Et il paraît satisfait des résultats de son ministère. Dans l'idée de Noël s'inscrivait la volonté de frayer un chemin pour permettre, voire hâter, la venue du roi des rois. Et nous savons la suite. À Noël, en lieu et place d'un puissant héros qui défendrait Israël et qui vaincrait le mal, le Seigneur s'avère un fragile nourrisson couché dans une mangeoire. Pourtant, frères et sœurs, le mal existe dans le monde, et ce n'est pas un scoop. En ce temps de l'Ascension, nous sommes au mi-temps d'une année terrible. Enlèvement d'enfants en France, mais aussi de femmes et d'enfants en Afrique. Cette année, commencée avec tuerie et prise d'otages, s'est poursuivie avec des massacres de chrétiens, de musulmans, quelquefois même entre eux. Qu'est-ce que Dieu vient faire là-dedans ? Dans ce contexte, on est pleinement dérouté, en particulier par les versets 14 à 18. C'est ainsi que Jésus affirme à son Père céleste qu'il a achevé son œuvre. Les hommes que tu m'as donnés ont observé ta parole et ils savent que tout ce que j'ai dit et fait vient directement de toi. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Tout cela pose une question. Y aurait-il de la naïveté pour Jésus d'affirmer des choses pareilles ? Pourtant, il en aura subi des déceptions devant tant de rejets de sa prédication. Pensez donc à la manière dont il a été traité chez lui à Nazareth, où on a failli le lyncher. Cet événement doit avoir véritablement frappé les lecteurs de l'Évangile pour que la morale de cette histoire soit devenue proverbiale. Il est vrai aussi que les plus grands maux que vont lui infliger les hommes sont encore à venir à ce moment-là. La foi et les convictions d'une amie disparue récemment m'ont permis d'entendre différemment ce que les Écritures veulent nous dire. Alors, devrait-on plutôt parler de sagacité, de perspicacité spirituelle dont Jésus serait doué outre mesure ? C'est ainsi que le bilan que présente Jésus serait à lire dans une toute autre perspective. Car le regard que porte Jésus sur un homme ne se limite pas à ce que lui font voir ses yeux de chair. En effet, par-delà ce que peut saisir l'intelligence purement humaine, Jésus peut percevoir derrière le mal pas mal d'échecs, notamment dans le cadre de son œuvre de prédication. Mais la puissance divine est à l'œuvre et ne pourra bientôt plus être dissimulée. Tout un processus de renouveau de la vie a été mis en route par Jésus durant les presque 3 années de son ministère parmi nous. C'est le cas de tous ceux qui se réclament de leur appartenance au Christ. Leurs œuvres les suivent, laissant des traces indélébiles qu'aucune puissance de mort ne peut enlever, même s'il est vrai que le monde peine à le reconnaître. « Je ne suis plus dans le monde » signifie « mais mon enseignement reste ». Nous avons entendu avant, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi aimer les uns les autres, car l'Esprit de Dieu est manifesté dans la chair. C'est ce que disait Paul, Jean, au verset juste avant ce qui a été lu tout à l'heure par Norbert. L'auteur de l'Épître rappelle la vérité de l'incarnation. L'amour de Dieu s'inscrit dans la chair et dans l'histoire concrète. Celui-ci ne peut pas être sans conséquence dans le concret des rapports humains. Nous sommes loin ici d'une spiritualité soft, ouverte à tous les ésotérismes, où vivre l'amour de Dieu consiste à se faire du bien, sans responsabilité face aux autres et au monde qui nous entoure. En effet, le Christ venu dans la chair rappelle la parole faite chair du prologue de l'évangile de Jean. Elle exclut toute foi diffuse en un Dieu sans nom et sans contour. Dans la première lettre de Jean, on a entendu parler d'amour parfait, et maintenant Jésus nous parle de joie parfaite. On pourrait penser au mot « utopie » employé dans une prière dans le début de ce culte. Pourtant, même un rabbin, Philippe Haddad, affirme que dans le Notre Père, je le cite, « Jésus nous rappelle qu'au-dessus de nous se trouve non pas une voûte céleste anonyme, mais un lieu d'amour à imiter, un lieu de paix nous invitant à le construire ici-bas. Nous pouvons aussi absolument en tenir compte. C'est dans la confiance en cet amour qui nous permet d'aller en paix les uns vers les autres que nous pouvons également trouver celui que nous recherchons, le Christ, et d'approcher la joie parfaite qu'il peut nous promettre. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Oui, c'est ainsi qu'il peut, sans naïveté, nous envoyer dans ce monde. Ce qui ressort de cette forme de testament, c'est l'envoi des chrétiens. Les portes du temple s'ouvrent vers l'extérieur. De la même manière que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu le premier, c'est lui qui nous envoie. Alors, nous entendons bien que l'amour inonde ces textes, mais quel rapport avec le monde et le mal qui semble triompher ? Louis Evelli, qui prêchait devant des protestants dans le sud de la France, disait « Dieu n'a que nous pour faire ce que nous lui demandons. Nous ne pouvons rester les bras croisés et attendre que cela se passe. » Je vais vous raconter le conte du colibri qui est très cher à notre ami Norbert. Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux pétrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le brasier. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit « Colibri, tu n'es pas fou ? Ce n'est pas avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu. » Et le colibri lui répondit, « Je le sais, mais je fais ma part. » Une fin optimiste dit qu'alors tous les animaux s'attelèrent à la tâche et que l'incendie maîtrisé, la forêt repoussa plus verte qu'avant. L'amour, d'après Jean, n'est ni une idée, ni un état passionnel et romantique, mais une présence. Il n'est pas un idéal élevé vers lequel il faudrait s'efforcer, mais un don présent, concret, incarné, réel. Le reste n'est qu'une histoire de mode d'emploi. Par conséquent, il ne peut s'opérer que de personne à personne, vu qu'il s'est manifesté par une personne. Le Christ, qui partagea en tout notre humanité, est ainsi l'incarnation même de cet amour de Dieu. Plus que notre justesse, plus que notre efficience ou la pertinence de notre communication, cet amour reste la mesure par laquelle nous avons à répondre devant Dieu et qui nous invite à nous poser ces trois questions. Où est-ce que l'amour que je dois à l'autre fait défaut ? L'amour inconditionnel de Dieu pour moi est-il la mesure avec laquelle je vois l'autre ? Quelles sont les conditions que j'ose me poser avant de faire un geste d'amour ? Jésus n'est pas naïf, ne le soyons pas non plus, mais entendons ce qui nous est dit aujourd'hui. L'homme et le monde qu'il s'est construit à son image est violent, divisé, injuste. Le mal existe, il faut le reconnaître. Mais c'est dans ce monde que Jésus nous envoie et qu'il nous fait confiance. Teilhard de Chardin disait « Le chaînon manquant entre le singe et l'homme accompli, c'est l'homme actuel. Empêtrés dans la crise, nous subissons chaque jour des discours sur la montée des périls, économiques, écologiques, démographiques. C'est le mal omniprésent devant lequel il pourrait nous sembler dérisoire, illusoire, de nous battre et de résister. Le Dieu Père que nous manifeste Jésus est porteur de promesses et non de jugement. Il est porteur d'espérance et non de résignation. Il est plus grand que notre cœur et ne condamne pas, mais il appelle. Il appelle non à sortir du monde, mais à s'engager dans le pays promis, plus proche et plus peuplé que nous ne l'imaginons. C'est dans l'amour et la confiance que nous pourrons approcher la joie parfaite qui nous est promise. Ces textes ouvrent un chemin d'espérance. Nous serions dans le monde de toute façon, mais ainsi envoyés, nous y allons accompagnés et avec un viatique. Le Cantique des Cantiques dit « Car l'amour est fort comme la mort ». Jésus-Christ et son disciple Jean nous affirment aujourd'hui que l'amour est aussi fort que le mal et que le monde ne subsiste que par l'amour reçu et donné. Si l'amour est censé donner des ailes, il doit aussi donner des bras et des mains. Chez les femmes et les hommes, il y a aussi des colibris. Parmi les informations sombres se glissent des rayons de soleil. Association de juniors pour l'alphabétisation, ici. Pour le vivre ensemble, là. Centre de réinsertion, ailleurs. Accompagnement en fin de vie. Accueil et repas pour les déshérités. Et toutes les ONG humanitaires à l'œuvre dans le monde. Sachons les voir et nous joindre à tous ces porteurs d'humanité. Oui, Jésus n'est plus dans le monde, mais son enseignement d'amour reste. Je leur donnerai un même cœur, un cœur nouveau, un cœur de chair, dit Dieu dans le livre d'Ézéchiel. Et comme le colibri, osons sans crainte faire notre part, apporter quelques gouttes d'amour dans la haine, de paix dans les conflits et surtout d'espérance dans ce monde qui se croit sans avenir. Nous avons ici la clé d'une question douloureuse qui se pose à chaque croyant du fond du cœur, à savoir qu'au lieu de nous décourager devant l'immensité de la tâche, nous nous rappelions qu'ensemble nous devons être confiants comme Jésus quand juste avant la passion et la résurrection, il affirme que son bilan est positif. Il n'est plus l'heure du découragement et de la peur. C'est le moment de nous remettre debout, en route vers la vie qui nous est offerte, pour peu que nous sachions la découvrir au détour de nos chemins ou autour de la table où nous accepterons de partager le repas avec un inconnu. Voulons-nous ressusciter ? Et avec nous, le monde ? Dieu, notre Père, que ta grâce et ton amour nous incitent à nous mettre à ton service et à celui de ton prochain. Détourne-nous de l'indifférence et de l'égoïsme, afin que l'amour, la joie et la paix que tu portes à tes enfants rejaillissent sur l'humanité. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.